ça puisse nous encourager. Je crois qu'il y a des choses des fois qu'on sait, mais c'est bien quand on les formule. Vous voyez, il y a des fois des choses, ah oui, des fois on se dit, ah oui, c'est vrai, mais le fait de le dire, ça fait du bien. Hein. Et ce soir, je voudrais faire une suite au message qu'on a vu ensemble. Alors, je vais vous faire réfléchir un peu. Il y a deux mardis, pour ceux qui étaient là, bien sûr, hein, on s'est arrêté sur ce verset du psaume 29, au verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Pour ceux qui étaient là, peut-être vous en souvenez. Peut-être c'est loin dans les oubliettes. On va essayer de le dépoussiérer tout ça. Et on avait retenu cette leçon au travers de ce verset, cette belle leçon spirituelle. C'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu est au contrôle. Ça vous revient un peu ? Ouais. Dieu était sur son trône lors du déluge. Voyez ? Ouais. Et ce soir, je voudrais faire un peu continuer dans ce sens. Je voudrais faire une continuité à ce message. Au travers de quelques événements, j'en ai sélectionné quatre, on aurait pu en prendre d'autres, mais quelques événements qu'on trouve ici et là dans la parole, où au premier abord, ce qui se passe semble anodin, semble même sans intérêt, semble banal, ça pourrait passer inaperçu. Pourtant, quand on prend la peine d'y réfléchir, on se rend compte que ces événements ont servi, ont contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Voyez ? Bien sûr, sur le coup, peut-être les gens qui étaient là s'en sont pas rendus compte, même certainement. Mais on se rend compte au travers de tout ça que finalement, même si tout semblait peut-être parfois dire le contraire, Dieu était au contrôle. Et je voudrais qu'au travers de toutes ces situations, ces quatre qu'on va voir, ça puisse nous encourager et peut-être remettre sur nos cœurs cette vérité que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que ça m'échappe ou que je dis, peut-être je comprends un peu, Dieu est au contrôle. Alors, première situation, on en a vaguement parlé dimanche, rappelez-vous de Joseph, Genèse, livre de la Genèse, on va lire au chapitre 40, on va lire les quatre premiers versets. Alors, rappelez-vous ce qui se passe juste avant, au chapitre 39, on a parlé de cet épisode de la femme de Potiphar, dimanche matin, hein, qui a quand même sacrément calomnié Joseph. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la calomnie dimanche, mais il est arrivé en prison précédé d'une flatteuse réputation, vous imaginez un peu, hein, quand on vous fait passer pour quelque chose que vous n'êtes pas, et c'est un peu ce qui s'est passé pour Joseph. Et là, il est dit ceci, Genèse 40, verset 1er, on va lire les quatre premiers versets. Donc après ces choses, et ces choses n'étaient pas très glorieuses, voyez, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Et j'ai envie de dire, et vous allez comprendre pourquoi, comme par hasard. Voyez ? Qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Et on va arrêter là notre lecture. Vous avez ici un premier événement qui pourrait passer totalement inaperçu. À savoir que même qu'un événement qui pourrait être sans intérêt, parce que c'est des choses qui arrivent continuellement, ça. Voilà que deux gars, deux officiers du roi d'Égypte, sont mis en prison. Vous voyez, ça c'est une histoire qui arrive très souvent aujourd'hui, encore aujourd'hui. Ça arrivait souvent à l'époque de l'Égypte, à l'époque de Pharaon, des gars qui se retrouvent en prison, ça arrivait continuellement, aujourd'hui encore aussi. Hein. Mais quelque part, ils se sont retrouvés là. D'ailleurs, vous avez remarqué que la Bible nous dit qu'ils ont offensé leur maître, on ne sait absolument pas ce qu'ils ont fait. Pff, la Bible ne le dit pas. À la limite, ce n'est pas ça le plus important. Mais ce qu'il est, c'est qu'au travers de cet événement qui est banal au premier abord, Dieu va s'en servir pour l'accomplissement de son plan. Puisque la Bible nous dit que c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Hein. Peut-être, les gens du monde, les gens incroyants diraient « le hasard fait bien les choses ». Peut-être ils emploieraient une autre expression en disant « quelle coïncidence heureuse !» Vous voyez, des fois les coïncidences, elles ont bon dos, voyez, surtout quand elles s'accumulent. Et ici, franchement, ces deux gars, cette chanson, ce panetier, on ne sait pas ce qu'ils avaient fait, ils se retrouvent comme par hasard dans la bonne prison, parce que je suppose qu'il n'y en avait pas qu'une en Égypte. Hein. Il n'y en avait pas qu'une. Hein. Il se retrouve dans la bonne prison, il se retrouve dans la bonne section, là où était Joseph, et la Bible nous dit verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Il aurait pu les placer sous la surveillance de quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, je suppose qu'il n'y avait pas que Joseph, vous voyez, mais il les place sous la surveillance de Joseph. Et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est que ces deux gars-là vont avoir un songe pendant une nuit. Et puis là, le matin, il faisait une sale tête. Hein. Qu'est-ce que vous avez, Joseph, voyez. Et puis, on a eu des songes, personne ne peut les expliquer. Et puis, vous connaissez l'histoire. Hein. Joseph va expliquer les songes. Ces songes vont se réaliser. Et par le biais d'un de ces deux hommes, à savoir les chansons, bon, ça a pris un peu de temps. 2 ans quand même. 2 ans, mais tout d'un coup, les chansons se rappellent de ce qui s'était passé en prison. Et par ce biais-là, le plan de Dieu va s'accomplir. Joseph va devenir l'homme que Dieu avait prévu qu'il devienne, à savoir le deuxième après Pharaon. Alors, mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est que ce qui semble anodin au départ, deux gars qui offensent le Pharaon, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, ils se retrouvent au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Hein. Ça fait quand même beaucoup de hasard. Voyez, moi, je préférais y voir le fait que Dieu était au contrôle. Et que dans cette situation-là, alors que Joseph doit se demander qu'est-ce qui se passe, Joseph, il n'a rien fait pour être dans cet état-là. Au contraire, il est droit, il est intègre, il n'a pas voulu coucher avec cette femme, il n'a pas voulu tromper le mari de cette femme. Hein, il a été droit et il se retrouve dans cette situation. Et c'est vrai qu'il aurait pu se dire, mais c'est infernal, mais que fait Dieu ? Qu'est-ce que fait le Seigneur ? Mais on se rend compte que même si lui peut-être était là en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas, mais comment ça se fait ? Avec des pourquoi, des points d'interrogation de partout. On se rend compte que malgré tout ça, Dieu était au contrôle. Il était au contrôle. Voyez, j'allais dire, même le pharaon qui pensait tout diriger, il ne s'est pas rendu compte qu'en envoyant ces deux gars-là en prison, il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Vous imaginez un petit peu, voyez, et je crois que ça doit nous encourager. Voyez, dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des fois tellement de situations qui font qu'on ne comprend pas ce qui se passe, comme Joseph, qui font que quelque part on peut se dire, mais Seigneur, moi j'essaye de tout faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne, d'être droit, de te plaire, et puis il y a des situations qui sont comme ça. Mais je crois que c'est bon de réaliser au travers de cette histoire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu est au contrôle. Il contrôle, il dirige même les petits événements qui semblent anodins, qui semblent banals. Peut-être que Joseph, je sais pas, ça c'est Cyril qui le dit, hein, quand il avait arrivé, ces deux gars, ils se sont dit, allez, encore deux autres, okay. il va falloir que je m'en occupe. Vous voyez, peut-être au départ, il a pris ça du mauvais côté, vous voyez, parce que peut-être il était exaspéré, voyez, mais c'était le plan de Dieu. Et on se rend compte au travers de tout ça que même là, Dieu était au contrôle. Et j'aimerais tellement que ça puisse nous encourager les uns et les autres que dans toutes les situations, et peut-être ce soir je pourrais dire, même là où on en est ce soir, Dieu est au contrôle. Oui. Regardez, un autre événement, et ça c'est un texte qui pendant les quelques jours de congé m'a travaillé, ça m'a interpellé, et pourtant on le connaît. On va un petit peu plus loin dans 1 Samuel chapitre 9. Et dans 1 Samuel chapitre 9, vous avez une histoire, un événement banal, mais alors, comme ça peut arriver, les histoires de ces ânes qui se sont égarés. Vous vous rappelez ? Avec Saül, on arrive à l'époque de Saül. J'ai tourné ça, j'ai réfléchi, parce que ça m'a interpellé, j'ai dit, mais c'est quand même dingue. D'ailleurs, soit dit en passant, des histoires d'ânes ou d'ânes dans la Bible, il y en a quand même quelques-unes, hein. Bon, il y en a qui rigolent, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais c'est fou, les histoires d'Anne ou d'Anès dans la Bible. Vous avez Balaam, vous avez dans Genèse 22, quand Abraham il monte au mont Morija, là, vous avez un âne qui porte le bois. Là, voyez, vous avez l'annonce sur laquelle Jésus s'est mis pour rentrer dans Jérusalem triomphalement. Enfin, vous en avez des histoires d'Anne ou d'Anès. Hein, et celle-là, elle est particulièrement intéressante. Des Anès qui s'égarent. Mais ça arrivait continuellement, ça. C'était pas un fait extraordinaire. Regardez, on va le lire, 1 Samuel 9, versets 3 et 4. Les ânes de Kis, père de Saül, soit dit en passant, Saül, qu'à ce moment-là, personne ne connaît. Hein. On ne le connaît pas à ce moment-là. S'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. » Il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils en ont fait du chemin, hein, pour les trouver. Hein, voyez. Et quand on lit la suite, on réalise que quelque part, c'est par le biais de cet événement banal, vous voyez, des années qui se perdent, que quelque part, Saül va rentrer dans le plan de Dieu. C'est fou quand même. C'est par le biais de cette situation, de cette circonstance qu'il va rencontrer Samuel, et aussi un petit peu par le biais de son serviteur qui était là. Parce que c'est le serviteur qui a dit, ouais, il y a Samuel, vous relirez l'histoire, il y a Samuel, l'homme de Dieu, le voyant, parce qu'à l'époque ils appelaient ça le voyant, hein, ça n'a pas la même connotation que nous aujourd'hui, vous voyez, je précise, hein, mais il y a l'homme de Dieu, vous voyez. Mais finalement, cette histoire d'Anès perdue, ça a été comme un prétexte dont Dieu s'est servi pour faire rentrer Saül dans le plan qu'il avait prévu pour lui, à savoir devenir le roi d'Israël. C'est quand même fou ça, vous voyez. On se rend compte que même là, même dans cet événement qui pourrait sembler banal, Dieu est au contrôle. C'est quand même, quand je relis ça, c'est quand même extraordinaire. Et Dieu s'est servi de ces ânes qui se sont égarés pour faire bouger Saül et l'amener dans son plan. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, Saül n'aurait jamais bougé. Hein. Il serait resté ce qu'il était, hein, tranquille dans son coin, mais il ne serait jamais rentré dans le plan de Dieu. Et regardez, c'est très intéressant, c'est que une fois que Saül rencontre Samuel, vous rappelez, les ânes, elles disparaissent. Hein. Cette situation-là, elle passe au second plan. D'ailleurs, regardez, 1 Samuel, verset 9, chapitre 9, verset 20, Samuel va lui dire, ne t'inquiète pas des ânes que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, etc. etc. Vous voyez, les ânes, après, c'est terminé, on n'en parle plus. J'allais dire, c'était comme prétexte dont Dieu s'est servi pour accomplir son plan. Et ça nous amène à réaliser que, mais Dieu est au contrôle de tout. Vous voyez, Dieu est au contrôle et qu'on peut lui faire confiance. Dieu s'est servi de ces histoires d'ânes égarées pour faire bouger Saül. Et j'ai envie de dire, Dieu se sert de toutes les situations dans nos vies pour nous faire bouger parfois. Des fois, on a besoin que Dieu nous bouge un peu. Hein. Vous voyez, peut-être pour nous faire bouger géographiquement. C'est un peu le cas ici. Saül, il a eu besoin de bouger géographiquement. Mais des fois, on a besoin de bouger dans nos conceptions un peu. Vous voyez ? Et Dieu se sert de tout un tas de situations. Parce que peut-être, combien de fois j'ai entendu « Moi, je suis comme ça, c'est comme ça et pas autrement. » Ouais. Ben, en général, quand on est comme ça, vous savez, le potier, si on veut dire « Seigneur, façonne-moi », etc., si on a cet état d'esprit-là, ça va être difficile, hein, pour que Dieu nous façonne. Et parfois, pour nous faire bouger un peu dans notre caractère, dans notre état d'esprit, dans notre mentalité, ben Dieu se sert de tout un tas de situations, parce qu'il le contrôle, pour nous amener à rentrer dans ce qu'il veut, à rentrer dans ses plans. Parfois, Dieu veut nous faire bouger par rapport à peut-être à une position qu'on a à prendre, par rapport à une décision qu'on a à faire, parce qu'on ne le fait pas. Alors Dieu se sert de tout un tas de situations pour nous faire bouger. Et pour rentrer dans son plan, ou pour aller un peu plus loin avec le Seigneur, voyez. Et ça montre encore une fois de plus que Dieu est au contrôle. Des fois, il y a des situations, on se dit, mais pourquoi je passe par là, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je traverse ça. Peut-être que Dieu veut nous faire bouger, comme avec les ânes. C'est qu'un prétexte, c'est que quelque chose dont Dieu se sert, et une fois que ça sera fait, les ânes, on n'en parle plus, hein, parce que ce n'est pas ça le plus important. Voyez, mais c'était le Seigneur qui était au contrôle. Donc on se rend compte qu'encore là, dans cette histoire d'Anès, Dieu était au contrôle. Et Saül est rentré dans le plan de Dieu. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ces Anès qui s'égarent, des fois, dans nos vies, il y a des choses on ne comprend pas pourquoi ça arrive, comment ça se fait. Mais Dieu est au contrôle. Hein. Et c'est lui qui fait. Et des fois, il fait tout pour que, paf, on rencontre la bonne personne, pour que la bonne connexion se fasse ici ou là, et tchouk, ça tombe comme il faut. Mais c'est quoi ça? C'est le hasard? C'est des coïncidences? Non, c'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Et moi, je me dis, mais Seigneur, ça me dépasse. Ça me dépasse. Regardez, une autre situation, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, dans le livre d'Esther. Connaît bien l'histoire, là aussi, une histoire où on voit que Dieu a renversé une situation qui était compromise, mais alors comme pas possible. Hein, rappelez-vous, alors là aussi, hein, Esther chapitre 6, les 3 premiers versets, un incroyant pourrait dire là, oh là là, Mardoché il a eu de la chance. Hein. Mardoché il a eu de la chance, parce que la Bible dit, regardez, cette nuit-là, ça, c'est important. Le roi ne put pas dormir. Mais ça, c'est un événement banal. Ça nous arrive à tous de ne pas arriver à dormir. Hein. Ça ne vous arrive pas à vous? Moi, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive même souvent. Hein. Ça cogite, vous voyez. Hein, il ne peut pas dormir. Bon, ok, d'accord. Il se fit apporter le livre des annales. Déjà, ça, c'est pas banal, ça. Vous voyez. Les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigdan et de Térech, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Et vous connaissez pour la plupart l'histoire, à partir de là, la situation, pouf, elle va tourner, mais comme il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous voyez ? Comme il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est assez intéressant, si tu peux me remettre le verset premier, cette nuit-là, parce que c'est intéressant parce que juste avant, les versets d'avant, à la fin du chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit ? Alors on va le lire, regardez. Tu peux me les mettre. Voilà. Là, c'est Aman, l'ennemi du peuple juif, qui parle à sa femme et à ses amis. Il dit « Tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Regardez verset 14. « Zeresh, sa femme... » C'était sympa celle-là aussi. Hein. Il y a Ananias, Saphira, il y a des couples infernaux, infernal, je ne sais pas comment on dit. Mais en fait, celle-là aussi était pas mal. « Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin... » demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Super, hein ? Le gars, il fait pendre, puis tu seras content. Hein, tu seras content. Tu auras fait peindre ton ennemi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Ça veut dire que il fait préparer le bois la potence. Voilà, chercher le mot. Il fait préparer la potence. Et le lendemain matin, c'était terminé. Hein, et Mardoché y passait. Mais il n'y a pas que Mardoché qui allait y passer, tout le peuple juif y passait. Hein. Et je ne sais pas si on réalise derrière, Israël, le plan de Dieu, Jésus qui devait arriver, le salut vient des juifs, etc., etc. Nous on lit ça comme ça, mais derrière ça avait une conséquence, voyez, mais, qui allait même dépasser les siècles. Voyez. Et là, c'est là qu'on arrive au verset 1er, chapitre 6, cette nuit-là. Il aurait pu dormir comme un bébé, hein. Il aurait pu être la nuit d'après. Sauf que si ça avait été la nuit d'après, c'était trop tard. Hein. Vous avez remarqué que cette nuit-là, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il a eu envie de lire, tiens. Bon, comme ça, tiens. Et puis, il lit le livre des chroniques. Enfin, je sais pas, moi, il aurait pu lire Paris Match, ou il aurait pu lire autre chose. Hein. Il aurait pu lire un tas de trucs. Non, il lit le livre des chroniques. Et puis en plus, il tombe juste sur l'endroit où il est question de Mardoché. Au fait, j'ai rien contre Paris Match. Hein. Je ne voudrais pas me faire assaisonner à la sortie. mais il tombe juste sur l'endroit où il est question de ce que Mardoché avait fait quelques temps plus tôt, et où il avait déjoué un plan contre le roi. Et là, il se dit, mais on n'a rien fait pour lui, vous voyez. Peut-être, et même certainement, il n'en avait même pas eu vent, vous voyez. Il n'avait même pas eu. Des fois, on se dit, ouais, je fais des choses, je fais ceci, je fais ça, ça sert à rien. T'inquiète. Ça sert à rien, Dieu l'a vu. Dieu le sait. La fidélité au Seigneur, elle est toujours récompensée à un moment donné ou à un autre. On ne le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on aime le Seigneur, on le fait parce qu'on veut plaire au Seigneur. Mais comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour oublier notre fidélité, pour oublier tout ce qu'on a pu faire de tout notre cœur. Même si personne ne l'a vu, Dieu n'est pas injuste. Et alors que peut-être, sur le coup, c'était passé inaperçu, à ce moment-là, ça sort, mais ça sort au bon moment. Pile quand il faut, la bonne nuit. Le hasard fait bien les choses, quand même. Non, moi, je préfère croire que Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Et puis, réfléchissez. Les rois de cette époque-là, bon, lui, il a lu. Il aurait pu faire revenir une concubine. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais... Allez. Il aurait pu faire revenir une concubine. Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi de lire. On se rend compte que ben Dieu était au contrôle. Tout était noir, tout semblait perdu, tout semblait terminé, tout semblait fini. Dans quelques heures, la potence, elle était déjà debout. Elle était déjà là, prête à recevoir Mardoché. Et puis on sait comment Dieu a renversé la situation, parce que Dieu est au contrôle. Hein. Alléluia. Et je crois que ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager de réaliser que... Il y a des situations, des fois on est là, on se dit, mais pff, voilà, Mais vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et même si des fois, nous on ne comprend rien, même si nous, on cherche des explications, Mardoché n'avait rien fait, voilà, sa tête ne revenait pas à Amman, et puis il était juif, quoi. Voilà, hein. Bon, bien sûr, il y avait tout un enjeu spirituel derrière, bien évidemment, mais de réaliser que Dieu est au contrôle. Voyez, et que toutes ces situations-là, on vient d'en voir déjà trois, on va encore en voir une autre. C'est vrai que humainement parlant, avec des raisonnements humains pour dire le hasard fait bien les choses. Ah, c'est des coïncidences, ça tombe bien, tiens, juste. Mais c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est au contrôle. Et moi, ça m'encourage pour nos vies, pour ma vie. Regardez un dernier texte. Alors, j'en ai regardé trois dans l'Ancien Testament. Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est l'Ancien. Regardez, on va dans le Nouveau. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. On connaît tout ça, mais on va le lire. Regardez, Luc chapitre 2. Et on va lire les sept premiers versets. Quatrième événement, là, un autre. Et j'ai pris ces quatre, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. Regardez, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Vous regarderez un peu sur une carte le chemin que ça a fait. Hein. Dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Hein. Soit dit en passant, que Dieu fasse que dans notre vie il y ait de la place pour le Seigneur Jésus. Hein. Parce que c'est ça le plus important. Parce que cette scène-là, elle s'est passée il y a plus de 2000 ans, il n'y avait pas de place pour lui. Aujourd'hui encore, cette scène-là, on la revit, il y a tellement de vies où le Seigneur n'a aucune place. Que Dieu fasse que dans notre cœur, il ait toute sa place. Alléluia. Mais ce qui est assez intéressant là aussi, c'est que vous avez un événement qui pourrait passer inaperçu, hein, mais il est quand même important parce que c'est ça qui a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu et surtout à l'accomplissement de la prophétie biblique. Vous voyez, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, parce que la Bible ne le dit pas, de ce César Auguste qui n'était pas un croyant. Tout d'un coup, d'ordonner un recensement de toute la terre. Hein. Alors, toute la terre, c'est dans le sens de la terre habitée. Hein. La terre habitée, c'est dans le sens que ça désigne l'Empire romain ou le monde romain. Vous voyez, nous, toute la terre, aujourd'hui, c'est une autre connotation. Mais à cette époque-là, c'était l'Empire romain. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Pourquoi il a voulu faire ça? Alors, est-ce que c'était une crise de monarque? Tout d'un coup, ça lui prend. Je ne sais pas, j'en sais rien pourquoi il a fait ça. Mais toujours est-il que, quelque part, même là, Dieu était au contrôle. Parce qu'on se rend compte que si tout à l'heure, c'est les ânes qui ont fait bouger Saül, là, c'est ce recensement qui ont amené Joseph et Marie à monter de là où ils étaient, de Galilée, ou plutôt à descendre pour aller jusqu'à Bethléem. Vous vous rendez compte? Parce que s'il n'y avait pas eu ça, il ne l'aurait pas fait. Sauf qu'on sait par la prophétie biblique que Jésus devait naître où? À Bethléem. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, on va le mettre quand même. Michée chapitre 5, verset 1er. Connaissez ce verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Question de Jésus, là. Vous voyez ? Question de Jésus. Et c'était prophétisé, c'était annoncé, c'était le plan de Dieu que Jésus devait naître dans cette ville de Bethléem. Vous voyez ? Mais pour que ce plan s'accomplisse, Dieu s'est servi de cet incroyant. Moi, je suis étonné, je suis surpris toujours de voir combien Dieu se sert des incroyants. C'est dingue, hein ? Des fois, ils ne se rendent pas compte des fois qu'ils sont des instruments entre les mains du Seigneur. Des fois, ils te disent, moi, je ne crois pas ni Dieu ni maître. Et puis, en fait, ils font la volonté de Dieu sans le savoir. Mais ici, c'est exactement ce qui se passe. Ce César Auguste, il n'a pas réalisé qu'en ordonnant ce recensement, lui, il pensait commander, faire le grand chef. Hein. Mais le grand chef, en fait, il était au-dessus. Et, il était en train simplement d'accomplir le plan de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, sans même s'en rendre compte. Il a fait bouger Marie et Joseph, qui sont venus, et puis qui se sont retrouvés au bon endroit. Voyez. Et j'aime ce passage parce que vous avez ici l'accomplissement de ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1er, il est dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Le cœur du roi, vous voyez, les rois de ce monde, ils pensent qu'ils commandent, les présidents, tout ça, mais ils sont qu'en train de faire le plan de Dieu. Hein. Tous les gouvernements, là, aujourd'hui, là, hein, qui pensent gouverner tout, qui pensent que c'est eux qui tiennent le monde dans les mains, là, hein. Je ne fais pas de politique, mais on se rend compte que tout ce qui est annoncé par la parole de Dieu se met en place. Hein. C'est dingue, ça. Et tous ceux qui sont élevés en dignité, pour lesquels on doit prier, d'ailleurs, soit dit en passant, hein, parce que Dieu nous invite à prier pour eux, hein, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est important. Hein. Mais quelque part, ils ne sont que des instruments, et sans s'en rendre compte, ils accomplissent le plan de Dieu. Et déjà ici, on le trouve. Et moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est surtout le verset 6. Hein, il est dit, pendant qu'ils étaient là, les questions de Joseph et de Marie, pendant qu'ils étaient là, vous voyez, on a parlé des pendant il n'y a pas longtemps, tiens, vous en avez un autre là. Voyez, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, comme par hasard. C'est dingue, c'est tombé pile au bon moment. Juste quand elle était à Bethléem. Ça aurait pu arriver un peu avant, hein, ou un peu... Non, juste... oui, bon, on pourrait dire le hasard, les coïncidences, non, c'est Dieu qui est au contrôle. Et vous avez remarqué que pendant qu'ils étaient là, le temps arriva où Marie devait accoucher, le temps où Marie devait accoucher arriva, ça montre que, quelque part, Dieu est tellement au contrôle qu'il en est même précis. Il est précis. C'est tombé, paf, pile poil, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Voyez, des fois, il y a des choses, nous, on voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas. Il n'y a rien de plus qui m'agace que de faire quelque chose que je voudrais faire exprès, j'y serais jamais arrivé. Et puis, tout d'un coup, mais Dieu, lui, il est d'une précision. Pourquoi ? Parce qu'il est au contrôle. Et la naissance de Jésus, elle est là pour nous montrer que Dieu est au contrôle. Il fait comme il veut. Ça arrive pile au bon moment. Alors, je termine ce soir, et j'en arrive à nous. La grande leçon dans tout ça, au travers de ces quatre exemples, j'aurais pu en prendre d'autres, et ça me fait tellement de bien, c'est de réaliser que dans nos vies, il en est exactement la même chose. C'est que Dieu est, Dieu sera et Dieu demeure au contrôle. Même quand nous, ça nous échappe, même quand nous, on a l'impression qu'on ne maîtrise rien, et c'est très souvent le cas, bienvenue au club, hein, on a l'impression qu'on ne maîtrise rien, Dieu était, Dieu est, Dieu sera toujours au contrôle. Hein. Parfois, il y a des situations, il y a des événements, il y a des états, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, on se demande pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça arrive comme ça, pourquoi. Voyez. Mais ça, c'est l'être humain, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, voyez. Hein, mais c'est bon de réaliser qu'au-delà de nos pourquoi, au-dessus, il y a un Dieu qui est au contrôle. Que rien n'est... c'est pas le hasard, il n'y a pas des coïncidences, il n'y a pas... Non, mais on est au contrôle. Alors, les uns et les autres, ce soir, il y a des situations que je connais au milieu de nous. Il y en a que je ne connais pas. Voyez. Mais dans toutes ces situations, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et je voudrais vraiment nous laisser cette pensée en terminant, c'est que ne laissons pas l'ennemi de notre âme, qui est quand même appelé le voleur par Jésus, ne laissons pas nous voler nos certitudes. Ce qui fait la force du chrétien authentique, de celui qui est né de nouveau, c'est qu'il a des certitudes. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Vous voyez, certitude. Et on a des certitudes. On a des certitudes. Mais ce que l'ennemi de notre âme veut, c'est essayer de venir nous voler ces certitudes. Et une de ces certitudes, parmi tant d'autres, l'apôtre Paul en parle, regardez, on connaît ce verset. Nous savons du reste, et ce qui est important là, c'est nous savons. Certitude. C'est pas peut-être que, je sais pas, il me semble que non. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez, ça c'est une certitude dont il est question ici, dont parle Paul. Nous savons. Pourtant, s'il y en a un qui a connu des galères, hein, c'est lui. Hein, s'il y en a un qui a connu des souffrances, c'est lui. S'il y en a un qui est passé par des moments où il pensait que tout était fini, tout était perdu, c'est lui. Mais c'est lui qui dit, nous savons, il a cette assurance, cette certitude. Et ça, l'ennemi veut nous le voler. Voyez. Cette assurance, cette certitude que Dieu est au contrôle, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, s'il peut nous piquer ça, il ne va pas se gêner. Hein. Tu es sûr ? Tu crois vraiment ? quand je vois l'état, quand je vois la situation, quand je vois ceci, quand je vois cela, je ne suis pas si sûr que toi. C'est évident que, et on est tous pareils, hein, ça cogite après, hein, ça cogite. Hein, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, disait le psalmiste, mais c'est souvent nous ça, voyez. Mais ce soir, avec la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à réaliser encore que Seigneur, je saisis pas tout. Je suis un peu comme Joseph, là, dans sa prison. Ben, moi, c'est un peu pareil. Il y a des situations qui ressemblent à des prisons. On a l'impression que c'est bouclé de partout, c'est fermé de partout. Seigneur, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu sais où tu vas. Tu connais la fin. J'ai entendu pendant les vacances, dans une prédication, cette parole d'un serviteur de Dieu qui disait « L'avantage de Dieu par rapport à nous, c'est que lui, il a toujours un coup d'avance. » Nous, on a souvent un coup de retard, mais lui, il a toujours un coup d'avance. Donc, ce n'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Hein. Alors, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Et peut-être, ça a été le thème du dernier chant, je veux te rester fidèle, mais c'est aussi ce qu'on a vu dimanche. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux être fidèle jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et quand on est dans ces situations, et ça nous arrive souvent, où quelque part, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment faire, ou que faire, ou pas faire, eh bien, dans ces situations-là, la meilleure chose à faire, c'est dire, Seigneur, écoute, moi, je vais, avec ton aide, être fidèle, rester fidèle, après toi, tu t'occupes du reste. Parce que lui est au contrôle. Il dirige les choses tellement bien. Nous, quand on veut diriger, quand on veut contrôler, on n'y arrive pas. On se fait déborder de partout. Hein. On pense qu'on maîtrise là, ça sort par là. Vous inquiétez pas, le Seigneur, non. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait dans nos foyers, dans nos vies, dans les situations, dans les circonstances. Il sait où il va et il fait concourir toutes choses. Des fois c'est avec le recul, on se dit, mais Seigneur, mais comment t'as fait? Mais c'est pas possible. Ben, laissez-le faire. Hein. Laissez-le faire, il est Dieu. Hein. C'est ça. Voilà. Et nous, on est des hommes. Voilà. Alors Seigneur, tu es au contrôle. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et rappelons-nous, il est dit quand même, la deuxième partie du verset est aussi importante, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Jusqu'au bout, du début à la fin, il est au contrôle. Alors Seigneur, dans nos vies, dans ma vie, eh bien Seigneur, moi je ne maîtrise rien, mais je veux te faire confiance. Alors que Dieu nous aide. Et que ça puisse vraiment nous stimuler, nous affermir et dire Seigneur, bon moi ok. Je ne veux pas me laisser voler ça, même si moi je ne comprends pas, toi tu es au contrôle. Et je veux m'attendre à toi. Alléluia. Seigneur, ce soir encore, je réalise au travers de ces choses simples que nous savons, Seigneur, que vraiment tu veux nous affermir. Aide-nous, Seigneur, aide-moi. Tu sais combien, Seigneur, je pourrais dire et reprendre cette parole, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Oh Seigneur, combien de fois, Seigneur, on se bat et je me bats avec l'incrédulité. Seigneur, merci parce qu'encore ce soir, ta parole est là pour nous affermir en toi. Tu connais toutes les situations, tu connais chacune de nos vies, Seigneur. Je te demande de nous aider, les uns et les autres, Seigneur, à vraiment, Seigneur, à rester dans ces certitudes de la foi, que tu sais ce que tu fais, que tu sais où tu vas, que tu es au contrôle, Seigneur, et que même si nous, on ne contrôle rien, toi, Seigneur, tu es celui qui a tout entre tes mains. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Restez, Seigneur, fort en toi, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus ce soir. Alléluia. Je voudrais juste comprendre quelques secondes voilà, avant de terminer. Peut-être, on l'a déjà eu fait, mais peut-être, priez pour votre voisin. Dans la simplicité de la foi. Là, sans...